Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité d'aujourd'hui a pour titre général « La langue de bois s'efforce de dissimuler la faillite ». Tout d'abord, comme à l'accoutumée dans l'actualité économique, et premièrement dans l'actualité économique en général, je note effectivement le recours de plus en plus systématique à la langue de bois. Par exemple, M. Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, estime, selon l'AFP le 24 septembre dernier, que la croissance dans la zone euro pourrait être un peu meilleure que prévu pour 2009, confirmant ainsi sa prévision d'un rebond en 2010. Il ajoute cependant que la croissance en 2009 sera quand même mauvaise. Prévoyant également que dans l'avenir, la croissance ne serait plus au même niveau qu'avant la crise, il a appelé à l'invention d'un nouveau modèle de croissance avec moins de croissance et, selon lui toujours, moins d'emplois. Tout un chacun comprend évidemment qu'il y a une croissance, donc une augmentation du PIB, mais moins grande, et tout le monde admet que cela ne peut que provoquer moins d'emplois. Eh bien, il parle en fait de la récession qui va être conséquente en 2009, au moins moins 6% en France, et moins importante en 2010, donc de la diminution bien réelle du PIB de la zone euro. Était-ce ce que vous aviez compris ? De même, récession du PIB ne signifie nullement moins d'emplois, mais peut-être bien davantage, au contraire, peut-être moins rémunérés. La confusion des termes devient extrême. Méfiez-vous de tout ce que vous entendez. Dans l'actualité économique financière, la langue de bois, toujours. Je relève toujours ce 24 septembre, qui fut donc très illustratif, que la Bourse de Londres subit des prises de bénéfices. Je croyais benoîtement que l'on devait profiter des bénéfices, pas les subir. En effet, ce sont plutôt les pertes que l'on subit d'habitude, soit avec flemme, soit avec colère. Les mots sont travestis, les contresens multipliés. Tout cela pour expliquer au bon peuple ce qu'il n'est pas censé comprendre vu l'extrême idiotie qui lui est prêtée, à taux d'intérêt élevé, évidemment, par la caste sectaire politicienne. En fait, il fallait comprendre que la baisse des cours de certaines valeurs en bourse était la conséquence de ventes très importantes opérées par certains traders pour le compte des banques, leurs employeurs, souvent à découvert en plus, et donc pas forcément du tout pour prendre des bénéfices immédiats, mais aussi pour en générer de futurs sur le dos des épargnants. Dans l'actualité économique générale, cette fois, je suis carrément horrifié par la maltraitance, comme on dit à propos des bêtes, des producteurs au bénéfice du racket mondial sur le travail opéré par l'oligarchie commerçante. Les manifestations des producteurs de lait, par exemple, à Bruxelles, me paraissent bien trop douces de la part de gens auxquels je reconnais la légitime défense contre les corrompus qui gouvernent presque partout. Il y a des exceptions d'autant plus honorables qu'elles condamnent leurs auteurs bien plus encore que les producteurs à une marginalisation dure. Mon conseil patrimonial du jour insiste. Manier le plus possible le cours compensé, c'est-à-dire l'achat à la baisse de valeurs de qualité. Par exemple du dollar US et de l'action Dow Chemical ou Morel & Prom. Dow Chemical doublera avec le cours du dollar US. Notez bien que notre ministre des Finances a déclaré il y a 2 ou 3 jours, Madame Lagarde, que personne n'avait intérêt à un dollar trop faible, ce qui en termes diplomatiques signifie qu'une remontée du dollar est recherchée actuellement. J'ai toujours pensé qu'il devait remonter à 1 pour 1, au moins, donc de 50% par rapport à aujourd'hui. D'où mon conseil, encore conforté par l'histoire de la monnaie au chapitre 16, ci-après. Ce chapitre 16 a pour titre « L'invention du cours forcé ». Depuis les temps les plus reculés de l'histoire de la monnaie, et plus précisément depuis que les banquiers se sont mis à faire circuler entre eux des billets à horde permettant de tirer de la monnaie concrète chez n'importe quel confrère, n'importe où, ceux-ci savent qu'il est possible de souscrire plus de billets, toujours présupposé billets à horde, hein, que l'on ne possède à l'immédiat en encaisse métallique ou en biens à caractère monétaire. Ce n'est donc pas une nouveauté depuis John Law 1716, lorsqu'en 1797, le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique met en circulation 2,28 fois plus de billets qu'il n'en peut payer à l'immédiat. Sa majesté engage alors sa responsabilité à hauteur de tous les biens du domaine royal, les fameux trésors de la couronne, et promise to pay to the bearers, elle signe l'intégralité de la somme. L'engagement de responsabilité sur leurs biens propres fut également, jusqu'à il y a seulement quelques années, l'apanage des membres du board de la célèbre compagnie d'assurance des Lloyds. Sa faillite fut couverte par l'appauvrissement flegmatiquement supporté par les owners, ce que la bienséance interdit de réclamer à Sa Majesté. C'est d'ailleurs une caractéristique fondamentale des Anglo-Saxons de faire ainsi tapis, a priori, au gigantesque poker mondial de la monnaie, de la finance et de la banque. Toujours pour eux, l'économie entière sert de gage à la monnaie papier, reconnaissance de dette, mise en circulation. Ce qui veut dire que chacun, dans le peuple, devient responsable sur ses biens propres et sur son travail de toute la masse monétaire sans jamais être consulté. Mais pas sans. À la quantité de monnaie en circulation pour les besoins des échanges économiques, il fallut ajouter depuis 1797 l'encours de la dette publique britannique de l'ordre de 10,6 millions de livres à ce moment-là. L'État se faisant financer par la planche à billets au sens propre, la masse totale de monnaie papier en circulation atteignit donc la valeur de 13,5 millions de livres, soit 8,35 fois l'encaisse métallique. La conséquence était connue de longue date. C'était la faillite assurée au moindre mouvement de masse dans les exigences de conversion en espèces au guichet de la Banque d'Angleterre. À une époque où la presse était encore libre et puissante, le risque était trop grand. Et le 19e siècle vit arriver cet événement incroyable. Les billets libellés en livres sterling furent décrétés inconvertibles pour le public, et sous certaines conditions seulement pour les banques centrales des autres pays. Désormais, les billets eurent donc cours forcé, c'est-à-dire obligation de circulation, pour ceux qui les acceptaient, car la monnaie métallique continuait à circuler à côté, jusqu'à ce qu'elle soit confisquée complètement par la Banque d'Angleterre progressivement, sous divers motifs. Ce fut donc une nouvelle application de la loi de Gresham, selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la bonne. Tous les échanges durent alors se solder en billets. La compensation quotidienne des dettes et créances entre banques dut se solder en règlement par compte ouvert chez la Banque des Banques, la Banque d'Angleterre. En 1866, pour échapper à l'hégémonie de la livre sterling britannique, résultant de l'expansion des règlements dans cette monnaie mondialement reconnue, malgré tout, comme aussi bonne que l'or, cinq pays se regroupèrent dans une zone politique, économique et monétaire qui fut baptisée l'Union latine. France, Belgique, Suisse, Italie, Grèce. Vinrent y participer, par l'émission de pièces d'or de qualité et de poids identiques, bien d'autres pays comme la Fédération de Russie. Toutes les pièces étaient dans tous les pays concernés calquées sur le titre et le poids du Napoléon de 20 francs. Presque tout était libellé au chiffre 20 dans l'unité du pays, par exemple 20 lès. Toutes ces pièces avaient donc un côté pile à la valeur nominale commune et un côté face personnalisé, généralement avec la tête du souverain de chaque pays. L'Union latine fut donc la première zone de monnaie commune inaugurée sur le continent européen et comme on le voit, l'euro n'a rien inventé en 1996, 130 ans plus tard. Les pièces de l'Union latine sont toujours très appréciées de nos jours et même surcotées pour certaines, comme celle de la Russie. En résumé, l'Union latine n'exista que tant que la monnaie métallique continua à circuler, avant d'être victime en France, comme en Angleterre auparavant, du cours forcé en cette fin d'année 1935. Nous verrons dans notre prochain chapitre 17 dans quelles conditions la monnaie métallique fut mise à la trappe de l'histoire. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence. À dans 15 jours.